Chapitre 5. Mon grand frère me disait « Fais ce que je te dis ou le Burgerman viendra te chercher. » « Il n'existe pas le Burgerman, » je rétorquais. « Bien sûr que si, il existe. Il est immense, il mesure 2,10 m et il s'habille tout en noir. Il entre au milieu de la nuit dans la chambre de tous les méchants garçons. Il les enlève dans leur lit. Il les emporte dans son usine et il les broie pour en faire des burgers qu'il revend au magasin. Tu vois toute la viande brune pas chère au rayon boucherie? Ce sont les steaks des méchants garçons, demande à qui tu veux. » Je ne le croyais pas, jusqu'à cette nuit, où je me suis réveillée et où le Burgerman se dressait au pied de mon lit. Chut, a-t-il dit. Pas un mot et peut-être que je laisserai la vie sauve à ta famille. J'étais incapable de parler, de crier, de bouger. Je regardais cette énorme silhouette imposante, presque 2,10 m, tout en noir. Je n'en revenais pas que mon frère ait eu raison. Puis j'ai été pris de tremblements. Mon cœur s'est emballé et je crois que j'ai mouillé mon lit. « Bouge-toi, » m'a dit le Burgerman rudement. « Si tu veux sauver ta famille, petit, tu feras mieux de sortir ta carcasse du lit. » Mais j'étais incapable de bouger. Je ne pouvais que frissonner de manière incontrôlable. Il a rejeté les couvertures, m'a attrapé et tiré par terre. Ses doigts s'enfonçaient dans le haut de mon bras. Il m'a tordu l'épaule et j'ai eu mal. Mes jambes l'ont suivi de leur propre chef. Je jure que ça s'est passé comme ça parce qu'en aucun cas je ne pouvais vouloir aller avec un homme comme lui. Dans le couloir, il s'est arrêté comme pour prendre ses repères. Je voyais la porte entrouverte de la chambre de mon frère, juste à 2 pas de là. J'entendais les ronflements de mon père dans la chambre d'à côté. « Crie !» me suis-je dit. « Voilà, fais quelque chose !» Dans l'obscurité, je sentais le Burgerman me jauger. Il ne semblait pas paniqué, ni même inquiet. Au contraire, il a souri. Un éclair blanc dans le noir. « Tu vois, petit, tu vois comme ils tiennent à toi. Je suis sur le point de briser ta petite vie de merde et ta famille ne se donne même pas la peine de se réveiller. Souviens-toi de ça, petit, tu n'es rien pour eux. À partir de maintenant, ils n'existent plus. Tu m'appartiens. » Il m'a déshabillée, jetée à plat ventre sur le lit. J'ai résisté autant qu'un enfant de 9 ans peut le faire, le visage enfoncé dans le matelas, les poumons privés d'air. J'ai cru qu'il allait me tuer. J'ai peut-être prié pour qu'il le fasse quand il aurait fini. Mais il a roulé sur le côté, a fumé une cigarette. Je ne savais pas quoi faire, à plat ventre, mouillé de partout. Je me suis endormie. Il m'a réveillée, battue, crié dessus jusqu'à ce que je fasse ce qu'il voulait. Après ça, encore des cigarettes. Et puis tout a recommencé. J'ai perdu la notion du temps. Je vivais hagard et nu, les entrailles brûlantes, la peau glacée. Il ne voulait pas me permettre d'avoir ne serait-ce qu'une couverture. De temps à autre, il m'apportait de la nourriture, des hamburgers, des pizzas. La première fois que j'ai mangé, j'ai vomi. Il a rigolé et affirmé que je m'habituerais. Puis il m'a tendu une cuillère et, montrant le tas, expliquait que si je voulais manger encore, je ferais mieux de me mettre au boulot. Et ça a continué, encore et encore. La vie avec le Burgerman qui réduisait le méchant garçon en bouillie. Un jour, il a ouvert la porte de la chambre d'hôtel. Le soleil m'a aveuglé, j'ai dû m'abriter les yeux. L'air sentait la pluie et, inconsciemment, j'ai pris une grande inspiration. La pluie était la première chose qui n'ait pas un goût de cendre sur ma langue. Le Burgerman a ri. « Tu vois, petit, même après tout ça, t'as encore envie de vivre. Faut croire que t'as un peu aimé ça, en fin de compte. » Il m'a balancé des vêtements. Pas mes anciens, mais des nouveaux qu'il s'était procurés quelque part. Il m'a ordonné de m'habiller. Montre un peu de fierté, nom d'un chien, petit. Arrête de te promener comme ça, le cul à l'air. Qu'est-ce que tu veux? Me tenter encore? Je me suis précipitée pour m'habiller, mais je n'ai pas été assez rapide. Cette fois-là, quand il s'est relevé, il a grommelé. Tu vois, petit, je t'avais bien dit que t'aimais ça. Il m'a emmenée dans un autre hôtel. Il portait un costume. Moi, un jogging bleu marine, tout raide. De deux tailles trop grand. Je me sentais mince, petit, fantomatique. Je devais ressembler à un réfugié d'une guerre étrangère, épuisé, les yeux vitreux, vidés. La réceptionniste m'a dévisagée d'un air inquiet. Le burgerman s'est penché vers elle. « Je travaille pour les services sociaux », lui a-t-il confié à mi-voix. Je viens de le retirer à sa famille, un cas très, très pénible. Ce que ses parents lui ont fait, il aura connu des débuts difficiles, mais si Dieu le veut, je vais le confier à une bonne famille et sa vie va vraiment commencer. « Oh, pauvre chou !» a dit la fille. Et alors, sans prévenir, je me suis mise à crier. J'ai crié et crié à en perdre haleine. Raconter au monde mon cauchemar dans chaque hurlement délirant. Il me semblait que mes poumons allaient jaillir de ma poitrine. Ma tête éclatait sous cette terrible pression. « Je vous l'ai dit, ses parents étaient des monstres », a expliqué le burgerman. « Oh, pauvre chou !» a répété la fille. Pour finir, il m'a emmenée dans un petit appartement. Il avait le téléphone, mais il ne fonctionnait qu'avec une carte de crédit. Le burgerman a posé un verrou à double entrée sur la porte et il était le seul à en détenir la clé. Au moins, il me laissait enfin seul, parfois des heures d'affilée. J'ai regardé Bugs Bunny, jusqu'au jour où je me suis mis à détester cette crapule de lapin. Alors j'ai éteint la télé et je n'ai plus rien regardé du tout. Je regardais simplement le mur gris miteux. Perdu dans ma contemplation, je me sentais devenir tout petit. Ça a été la première fois que j'ai remarqué une araignée. Je l'ai attrapée, je l'ai mise dans une tasse et j'ai observé ses tentatives d'évasion désespérées. J'imagine que le burgerman avait raison, tout compte fait. J'avais dû aimer ça, finalement. Chapitre 6. Les araignées violonistes sont difficiles à maîtriser, principalement à cause de leur habitude de se cacher. Tiré de Brown Recluse Spider, Michael F. Potter, entomologiste urbain, département d'agriculture de l'Université du Kentucky. Rita n'arrivait pas à dormir. C'était un des petits paradoxes de la vie. Maintenant qu'elle avait enfin le temps de se reposer, elle en avait perdu la faculté. On aurait dit que toutes les nuits suivaient la même longue trajectoire grise. Elle regardait le clair de lune parcourir le mur du fond de sa chambre, surprenait le frémissement des rideaux lorsque le vent froid se coulait dans les interstices des fenêtres vétustes, écoutait craquer sa vieille petite maison dont l'hiver maltraitait les jointures en bois autant qu'il maltraitait ses articulations de chair et de sang. À l'heure où le soleil paraissait enfin au-dessus des montagnes, elle se demandait pour la énième fois pourquoi elle ne partait pas en Floride comme tant de ses amis l'avaient fait. Ou alors en Arizona, moins d'humidité, plus de chaleur. Elle pensait que l'Arizona lui plairait. Elle n'irait nulle part et elle le savait. Elle était née dans cette maison. À l'époque où la sage-femme venait à domicile et où un accouchement n'était pas une raison de voir un médecin. Elle avait gambadé sur ses collines avec ses quatre sœurs et ses trois frères, grimpé à ses arbres, piétiné les fleurs du jardin si chères à leur mère. Il ne restait plus qu'elle à présent. Une vieille femme desséchée que tout le monde s'attendait à voir disparaître dans une maison de retraite, comme sa mère l'avait fait. Mais Rita était d'une autre trempe. Elle avait échappé au diabète, au cholestérol et aux tumeurs de cerveau qui avaient emporté tant des membres de sa famille. Elle tenait bon, maigre comme une trique, à peine quelques grammes de plus qu'un oiseau. Mais encore capable de fendre ses quatre stères de bois chaque automne en prévision de l'hiver. Elle binait elle-même son jardin, écossais ses haricots, balayait sa terrasse, battait ses tapis. Elle continuait, vaille que vaille, dans l'attente de quelque chose qu'elle-même ne s'expliquait pas. Peut-être en raison de son âge, l'attente était à peu près tout ce qui lui restait. Jadis, son amour de lycée l'avait emmené vivre à la grande ville, Atlanta. Donnie voulait voir le monde. Il avait surtout vu l'espace aérien au-dessus de l'Allemagne avant d'être abattu par un nazi. Et Rita était passée du statut de jeune épouse à celui de jeune veuve en moins de 2 ans. Elle n'avait pas vraiment été la seule dans son cas. Bien d'autres jolies demoiselles sanglotaient au-dessus de leur café, ou plus vraisemblablement au-dessus de leur liqueur de l'après-midi. Mais la fin de la guerre avait vu le retour d'une flopée d'hommes séduisants qui avait entraîné la plupart de ces jeunes filles dans une frénésie érotique née du soulagement d'être en vie. Rita avait considéré les options qui s'offraient à elle. À 20 ans, elle était trop jeune pour rester tous les soirs à la maison, et même si elle appréciait son travail de secrétaire, la bougeotte de Donnie avait peut-être un peu déteint sur elle. Elle avait déjà coupé le cordon ombilical une fois. Autant aller voir ce qu'il y avait à voir. Rencontrer un solide gaillard. Vivre une aventure. Cela ne marcha pas. À l'arrivée, elle ne fut ni grisée, ni euphorique, ni à vrai dire tellement intéressée par les relations sexuelles maladroites sur les banquettes arrière. Rita voulait simplement être Rita. Elle s'installa donc dans la petite maison qu'elle avait achetée avec le capital d'essai de Donnie, cultiva son jardin, construisit une terrasse couverte à l'avant de la maison, et lorsque la solitude commença à lui peser, elle fit la dernière chose au monde qu'on attendait d'elle, elle devint famille d'accueil. Pendant près de 20 ans, elle recueillit des enfants, depuis des nourrissons braillards jusqu'à des gamins de 10 ans maussades. Elle venait les chercher au fast-food du coin. Tout leur bien sur cette terre tenait dans un simple sac poubelle noir qu'elle jetait sans effort à l'arrière de la voiture. Elle leur offrait une citronnade, puis elle les ramenait chez elle et leur expliquait comment ça marchait. Elle adhérait à des règles simples. Si on les suivait, les choses se passaient relativement bien. Si on désobéissait, on était puni. Certains enfants se coulaient facilement dans le moule, d'autres apprenaient à leurs dépens. Il y en a vu certains qui lui avaient fait peur, mais elle préférait croire qu'il n'en avait jamais rien su. Et d'autres qu'elle avait réellement aimé. Mais là encore, elle se plaisait à penser qu'il ne l'avait pas su. La vie est assez difficile comme ça sans s'imaginer qu'une mère d'accueil peut à elle seule changer le cours des choses. Elle donnait à ses enfants un toit au-dessus de leur tête, 3 repas consistants par jour, un lieu où se tenir en sécurité et, avec un peu de chance, des bases, pour le jour où ils échapperaient enfin au système et mèneraient leur barque tout seuls. Elle espérait qu'il y avait, éparpillés dans tout Atlanta, des gens qui souriaient encore en se rappelant le temps où ils vivaient chez une femme qui repassait jusqu'au napperon et qui les obligeait à faire leurs prières tous les soirs, et que ces gens, s'ils lui en avaient voulu à l'époque, la comprenaient aujourd'hui. Et peut-être qu'ils allaient jusqu'à l'aimer un peu, même s'il convenait évidemment qu'elle n'en sût jamais rien. Croire qu'on peut changer le cours d'une vie en devenant famille d'accueil était pure niaiserie sentimentale, évidemment. De la 30aine d'enfants que Rita avait connus à l'époque, au moins 5 étaient morts. Drogue, violence, suicide, comportement à risque, était-ce important? Donnie était mort. Ses enfants étaient morts. Et puis l'un après l'autre, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, jusqu'à ce qu'elle se retrouve là, de retour dans la maison de son enfance, à 1 semaine de son 90e anniversaire, avec une conscience aiguë de la lenteur du temps qui passe et de la présence bien réelle des fantômes. Elle sortit du lit. Le ciel était d'un gris à peine plus pâle, mais c'était suffisant pour rappeler cela le matin. Elle passa les pieds dans de gros chaussons bleus, attrapa son peignoir en épais tissu éponge et l'enfila sur son long pyjama de coton. Elle portait un bonnet de nuit, pas du tout à la mode, mais très utile quand on a la peau plus fine que du papier et une circulation tellement lente qu'il vous arrive de prendre froid alors que vous êtes debout devant le radiateur chaud du petit salon. Elle descendit au rez-de-chaussée sans hâte. Dans la cuisine, elle fit chauffer l'eau pour une tasse de thé. Puis elle alla chercher des œufs dans le réfrigérateur. Elle prenait 2 œufs brouillés tous les matins avec un toast. Grâce aux protéines, elle restait robuste et ce petit déjeuner ne manquait jamais de lui rappeler sa jeunesse. En ce moment même, elle entendait une lame de parquet craquer derrière elle. Son frère Joseph, encore mal luné. Joseph avait toujours aimé jouer des tours, comme de reculer sa chaise avant qu'elle ne s'assoie. « Voyons, voyons, Joseph !» le gronda-t-elle sans se retourner. « Je deviens trop vieille pour ces jeux-là. La dernière fois, ça a failli me coûter une hanche. » Un autre craquement. Elle aperçut une ombre qui filait sur le mur. Elle pensa que c'était Michael, ou peut-être Jacob. Il passait souvent, appréciant sans doute autant qu'elle la cuisine familière de leur enfance. Elle voyait moins ses parents. Sa mère le plus souvent penchée au-dessus de l'évier, qui fredonnait distraitement en lavant des légumes ou en préparant le dîner. Une fois, elle avait rencontré son père, debout, à fumer la pipe au milieu du petit salon. Mais à peine était-elle entrée qu'il avait disparu, l'air presque gêné. D'après les gens de la région, c'était à cause de l'or et des cristaux enfouis dans les collines que les fantômes étaient aussi actifs. Un chaman indien avait expliqué dans le journal que l'or était la substance terrestre qui émettait le plus de vibrations, qu'il activait les choses, concentrait les énergies. Partout où se trouve de l'or et des cristaux, en grande quantité, disait-il, vous avez le cocktail idéal pour les esprits. Rita avait pris cette explication au pied de la lettre. Sa maison avait près de 150 ans et elle avait abrité 5 générations de sa famille. Évidemment qu'elle était hantée. Quant à savoir pourquoi sa mère voudrait passer l'éternité à faire la cuisine, eh bien Rita se disait qu'elle le découvrirait bien assez tôt. Ses œufs étaient prêts, son toast de pain d'avoine, son thé Earl Grey. Elle disposa le tout sur la petite table en bois, une chose après l'autre. Puis après un dernier regard pour s'assurer que Joseph n'avait pas touché à sa chaise, elle s'assit. Le soleil s'était déployé sur le magnifique panorama des Blue Ridge Mountains, teintant de rose pâle tout ce qu'il touchait. Elle se dit que c'était une belle matinée. Ce qui signifiait qu'il était temps de faire ce qu'il y avait à faire. Elle se leva, gagna à petits pas la porte du jardin. Il lui fallut tirer d'un coup sec à 2 ou 3 reprises pour obtenir qu'elle bouge. Lorsque la porte fut enfin ouverte, elle passa une tête dehors et dit d'une voix ferme que 30 enfants placés avaient appris à ne jamais contredire « Tu peux venir maintenant, mon garçon. » « Rien. »« Je sais que tu es là, bonhomme. Inutile d'avoir peur. Si tu as envie de discuter, montre-toi simplement poli et dis bonjour. » Après toutes ces années passées en compagnie de fantômes, Rita fut presque aussi surprise que n'importe qui lorsqu'un enfant en chair et en os se matérialisa sur la terrasse couverte à l'arrière de sa maison. Blond roux, il ne devait guère avoir plus de 8 ou 9 ans, avec ses épaules chétives voûtées pour lutter contre la gelée du matin, sa tête baissée, son air manifestement peu sûr de lui. Il y avait 2 semaines qu'il faisait des apparitions dans son jardin, mais à chaque fois qu'elle avait croisé son regard, il avait pris ses jambes à son cou. Cette fois-ci, du moins, il ne broncha pas. « Bonjour, » murmura-t-il. « Dieu du ciel, mon garçon, tu vas attraper la mort avec ce froid. Entre donc, ferme la porte. Je ne paye pas pour chauffer dehors. » Il hésita à nouveau, mais alors son regard se posa sur le petit déjeuner de Rita, et elle vit la faim passer comme un spasme sur son visage. Il entra, referma soigneusement la porte derrière lui. Ce mouvement révéla des omoplates aussi affilées que des lames de rasoir. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?»« Comment t'appelles-tu »« On m'appelle Scott. » »« Eh bien, Scott, c'est ton jour de chance. Je m'appelle Rita et je m'apprêtais justement à préparer d'autres œufs. » Il ne protesta pas, mais s'assit dans la douillette cuisine chaude qui sentait les œufs brouillés et le pain fraîchement grillé. Rita cuisina, nourrit, cuisina encore. Enfin, quand la panse du garçon fut rebondie et tendue sous la chemise à rayures jaunes décolorées, il repoussa son assiette vide. « Rita, dit-il enfin, qu'est-ce que tu penses des araignées ?